m'en rappelle plus comment qu'on s'était rencontrés. Je ne sais plus si c'est lui qui a parlé le premier, ou bien si c'était moi qu'avais fait les avances. Ça n'a pas d'importance. Tout ce que je veux me rappeler, c'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout quand c'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je ne sais pas s'il est riche ou s'il a des défauts, mais de l'aimer comme je l'aime, un homme est toujours beau. Et quand on va danser, qu'il pose sur mes hanches ses belles mains si blanches, ça me fait froid dans le dos. C'est lui que mon cœur a choisi. Et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le temps. C'est beau, c'est épatant. Il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi. Je sais pas ce qui m'arrivera, si ça durera longtemps, mais je me fiche du plus tard, je veux penser qu'au présent. En tout cas, il m'a dit qu'il m'aimerait toute la vie, que la vie sera jolie, s'il m'aime pour tout le temps. C'est lui que mon cœur a choisi, et quand il me tient contre lui, dans ses yeux caressants, je vois le ciel qui fout le camp. C'est bon, c'est épatant. Ah, il a pas besoin de parler, il a rien qu'à me regarder. Et je suis à sa merci, je ne peux rien contre lui, car mon cœur l'a choisi.
Alors, si l'Académie du prix Nobel à Stockholm a donné un prix à Toni Morrison pour son travail d'écrivaine, eh bien, par ailleurs, nous marquons et nous nous rappelons que Edith Piaf a été et est toujours une très grande chanteuse, puisqu'il y a 20 ans, elle disparaissait et nous avions tous très envie d'entendre encore quelques-unes des très belles chansons qu'elle a interprétées. Juste encore quelques mots à propos de Toni Morrison. Toni Morrison n'est pas la première femme américaine à décrocher le prix Nobel de littérature. Avant elle, Pearl Buck avait reçu ce prix en 1938. Mais elle est, du moins, la première femme noire à se voir couronnée. Alors, elle s'est déclarée très heureuse. Et elle dit même, je suis heureuse à ne pouvoir le supporter et profondément honorée par le choix du jury de Stockholm. Je remercie Dieu que ma mère soit en vie pour vivre ce jour, dit-elle. La bonne nouvelle a été donnée à l'éditeur français Christian Bourgeois, donc, qui a publié quelques-uns des livres de Toni Morrison lorsqu'il était à la foire de Francfort, et il a déclaré « C'est une très grande romancière en langue anglaise, une grande féministe noire américaine dont toute l'œuvre est liée à la cause noire aux États-Unis ». Par ailleurs, pour prouver que M. Étienne Dumont se trompe peut-être sur ce que ressentent les gens parce qu'ils n'ont pas été honorés par l'Académie du Nobel et que ce sont plutôt des obscurs auteurs qu'ils le sont, eh bien, par exemple, Ismaël Kadaré se dit, de toute façon, lui, ça fait déjà plusieurs années qu'il est candidat malheureux, et il a affirmé que pour lui, ne pas avoir le prix Nobel ne l'empêche pas de dormir. Et de même, l'écrivain Jorge Luis Borges, qui lui-même n'a jamais obtenu cette distinction. Et certains diront que c'est plutôt une perte pour le Nobel que pour Borges lui-même. On pourrait dire ça peut-être pour d'autres auteurs. En l'occurrence, pour nous, nous sommes très contentes d'avoir à découvrir une nouvelle écrivaine. Je vous rappelle quelques-uns des titres de Toni Morrison. L'œil le plus bleu, édité chez Lafon. La chanson de Salomon, aux éditions Acropole. Soula, aux éditions Bourgeois, et Tar Baby. Et puis, tout dernièrement, Jazz, et un recueil de conférences qui a pour titre Playing in the Dark. Voilà, alors c'est tout pour aujourd'hui à propos de Toni Morrison, et dans quelques instants, je vous propose la lecture d'un extrait de livre qui certainement vous intéressera beaucoup. Anne Tristan, est-ce que ça vous dit quelque chose? Anne Tristan, eh bien, à l'origine, elle aurait voulu être journaliste. Petite, elle regardait l'émission française 5 colonnes à la une en rêvant. En fait, sa première confrontation avec le métier, ça a été 5 mois de stage à la télévision, mais très vite, elle a été dégrisée parce que pour elle, déranger les gens des heures pour les décevoir en passant 2 minutes de reportage, eh bien, ce n'était pas son genre. Elle part au Nicaragua, elle revient en vendant 2 articles. Elle travaille à Africasie, la revue, et le hasard et l'actualité la conduiront en Nouvelle-Calédonie, où elle retourne plus tard pour son second livre. Parce que Anne Tristan, et peut-être que les choses se replacent dans votre tête, a écrit un premier livre qui a marqué beaucoup de gens. Il avait pour titre « Au front, à l'intérieur du Front National ». Il fait événement parce que Anne Tristan est entrée 6 mois dans la peau d'une militante du Front National en France et raconte de l'intérieur ce qui s'y passe. Et pourquoi je vous parle aujourd'hui d'Anne Tristan? Eh bien, c'est que cette fois-ci, elle nous réécrit un troisième livre, parce que le deuxième, qui l'a conduite en Nouvelle-Calédonie, a pour titre « L'autre monde, un passage de Kanaki, en Kanaki ». Eh bien, ce troisième livre, elle l'a écrit à propos du débat sur l'immigration. Et, ni plus ni moins, elle a choisi de changer de place, littéralement. Partie de Saint-Domingue, où elle s'est imprégnée d'une identité qui n'est pas la sienne, désormais elle s'appellera Sonia. Elle débarque un jour à Roissy, sans papier, sous dominicaine du pauvre quartier de Vicente Noble, syndicaliste en but à la répression. Et c'est ce parcours du demandeur d'asile qu'elle raconte avec finesse et sentiment, de l'hôtel Arcade de Roissy au foyer parisien, en passant par ces interrogatoires où l'on vous questionne sans vous écouter. Elle dit que le véritable héros de son livre, ce sont les murs, ceux de l'hôtel, du parking, des foyers, les murs qui nous cachent ce que l'on vit de l'autre côté. Tiens, il y a encore une cliente. Deux policiers passent, la mine désœuvrée. On dirait que ce tout début de matinée leur pèse déjà comme une fin de journée. De sa guérite, leur collègue confirme qu'il s'occupe de moi. Ses deux aînés lui souhaitent bien du plaisir et entreprennent de me dévisager. T'as vu sa gueule? Elle a l'air con. T'as raison, dis donc. Tu crois qu'elle a besoin de baise? Penses-tu? C'est une casse dalle qu'il lui faut. C'est tous des crèves la faim, ça leur monte au plafond. Ils ricanent, puis reprennent leur morne errance. Je ne peux m'empêcher de dévisager mon reflet. Je n'ai rien de changé pourtant, aucun signe particulier n'est venu se rajouter, si ce n'est que je n'ai plus de passeport pour le mentionner. Ils m'ont blessée, non pas par leur plaisanterie vaseuse remuée par l'ennui, mais par leur regard qui me sculptait comme un objet. Un inspecteur à l'air affairé vient de surgir du bureau et crie vers les guérites qu'il ne va pas avoir le temps de me traiter tout de suite. Il s'enquiert d'où je viens. Son subordonné ne sait pas, probablement de Saint-Domingue, dit-il. D'un coup d'œil sur l'écran qui affiche toutes les arrivées, l'inspecteur vérifie. Mon vol en provenance de Santo Domingo y figure, mais au milieu de quelques autres. Bon, pas de papier, pas d'entrée, va falloir la expédier vers Saint-Martin, conclut-il sans autre question. Faites-la reculer, celle-là, crie une voix. Je recule, bouleversé. Un jeune homme se tient debout, son pantalon taché de sang frais, le bras bandé. À son côté, un autre jeune qui lui ressemble comme un frère et a la même chemisette chamarrée sur le dos. Je dois comprendre qu'ils sont tamouls à une remarque des policiers. Mais d'où vient la blessure du jeune? D'un coup reçu là-bas? Du bureau s'échappe maintenant une sonnerie de téléphone, puis la voix de l'inspecteur toujours sous pression. Il ordonne d'acheter un sandwich pour un Brésilien qui se trouve ailleurs dans l'aéroport. « Je vous dis qu'il tremble, je l'ai vu tout à l'heure, il a faim, il faut lui faire bouffer quelque chose !» Une autre voix dans le bureau explique qu'il faudrait écrire un ordre de réquisition pour éviter un policier d'en être, de tirer ça de sa poche. La faim, le sang. Je me mets à croire que nous sommes des centaines à attendre que ce petit bureau cesse d'être débordé par toute la misère du monde. Au-delà de la vitre, les gens en partance ne semblent toujours pas deviner ce qui se passe de ce côté-ci. Quand deux civils et le blondinet viennent brusquement se planter dans mon champ de vision. Le dénommé Sylvain, qui fera office de traducteur, les rejoint, puis retourne sur ses pas pour chercher sa casquette oubliée. Les deux jeunes tamouls s'en vont, sous escorte, vers une destination qui m'est inconnue. Mon interrogatoire commence, rodé, mécanique. Elle n'a pas de papier? Elle a acheté son billet, c'est ça? Est-ce maintenant qu'ils vont s'apercevoir qu'une seule ici les balade vraiment? Les questions tombent, les mêmes que précédemment. Sylvain, le traducteur, avoue ne pas tout capter. Son supérieur l'écoute à peine. Je me tends, c'est la crainte de me couper, une légère fatigue aussi. Mes noms, prénoms, ma profession sont de nouveau notés et mon histoire succinctement racontée est consignée en 3 exemplaires par l'inspecteur qui à chaque instant s'y perd et cherche dans ses liasses un formulaire. « Tu vois le boulot que c'est », soupire-t-il à l'adresse de Sylvain qui lève un sourcil approbatif et respectueux, aussi respectueux qu'il l'est à mon égard. Il me faut signer tous ces gribouillages. Le gradé, qui pour la première fois me regarde, s'aperçoit que je tremble et s'en dit surpris. Mon interprète lui rappelle, poli, que j'ai tout de même reçu des coups dans mon pays. Mais son supérieur ne supporte pas que l'on tremble. Et pour chasser le malaise, est prêt à tout, réquisitionner des sandwichs, voire réconforter à sa manière. Oh là là, encore une qui va nous claquer dans les doigts. Dis-lui qu'elle va aller à l'hôpital, dormir, manger, qu'on l'interrogera encore, mais que si on la rejette, elle aura un recours. Je le comprends, cet homme, coincé dans son bureau entre les paperasses, les consignes et tout le tremblement. Mon traducteur me répète tout consciencieusement et évoque même une commission de recours que je pourrais saisir si on me refuse l'entrée en France. Il m'incite donc à signer ce papier par lequel je m'engage à rien d'autre. Selon lui, qu'à accepter d'entrer dans un hôtel. Pourquoi faut-il accepter d'y aller? Étrangère, sans parents ni amis, où irais-je de toute façon? Je me méfie. « Alors, » intervient le gradé, « qu'est-ce qu'elle attend? Elle signe ?»« Tant pis, après tout, j'ai envie de dormir. » Ils m'ont mise au 26. C'est une chambre moderne, blanche, à 3 lits. Elle est vide. Dans le couloir, les autres locataires m'ont regardé passer. La fenêtre, condamnée, filtre les rayons d'un soleil pâle. En bas, un patio dessert la véritable entrée de l'hôtel. En face, je recule. C'est impossible. Je rêve. Ces grands panneaux, eux aussi vitrés, sont pourtant bien ceux de la gare du RER qui dessert Paris. Je me revois en sortir avant, quand je n'étais pas Sonia. Je courais toujours pour accueillir des amis. J'ai même déjà jeté un œil à cet hôtel. Son nom est Arcade. Mais je n'avais jamais vu. Et maintenant, c'est de cette dissimulation que nous sommes prisonniers. Même si je reste des heures appuyée à cette fenêtre, même si dehors les passants lèvent les yeux, ils ne remarqueront rien, sinon une passagère en transit, hébergée dans un hôtel de gamme standard entre deux avions. Nous nous présentons les uns aux autres, d'une bien curieuse façon, déclinons d'abord d'où nous venons, puis où nous allions. Suivent les noms. L'un des garçonnets est iranien. Sa famille vous laisse réfugier au Canada. Il s'appelle Ali. Ils sont 5 en suspens, enfermés depuis 4 jours. Le deuxième garçonnet, plus timide, laisse Ali dire qu'il vient du Zaïre et que sa grande sœur est en train de dormir dans l'une des 40 chambres. Il est le seul à avoir la mise pauvre. Les autres ont veste de cuir et chevalière au doigt. Un jeune d'une 20aine d'années vient du Liban et espère lui aussi l'asile au Canada. Le vieil homme qui partage sa chambre et égrène un chapelet s'en allait à New York. Il avait décollé de Syrie. Il ne dit pas non plus son nom. Je croyais que c'était la misère que l'Europe ne voulait pas accueillir, à moins qu'il n'y ait, à l'image de faux touristes, des faux riches, que les gardes-frontières dépisteraient en se disant que tout ce qui brille n'est pas d'or. Le Colombien, tel le maître des lieux, s'enquiert si j'ai mangé. Aussitôt le Syrien cessant de prier, insiste pour que je prenne son plateau repas. Il n'a pas eu l'envie de toucher cette côte de porc refroidie, une purée de flageolets avec. Je l'emporte dans ma chambre, suivi par mon hôte courtois, mais intrigué. Alors, comme ça, vous vouliez entrer en France? Mais quelle drôle d'idée! Il n'est pas 22 heures. Le jeune malade iranien a de nouveau poussé un cri rauque. Lucia, une jeune femme haïtienne, finit par s'endormir en se lamentant. Dire que je me retrouve dans une prison alors que je voulais juste élargir mon horizon. De cet horizon, nous en reparlerons le lendemain avec Philippe le Camerounais et James le Libérien, qui, collant leur front à une vitre, s'étonneront encore que je puisse leur affirmer que c'est une gare que nous voyons. Puis, écoutant le bruit incessant des avions, ils répéteront que cette phrase qui me rappelle les émigrantes de Vincente et Noble et leur envie d'une existence plus remuante. Vous vous rendez compte? On est là, à porter tout ce qui bouge, si près de la vraie vie. Regarde-moi ça, comme elles sont attifées, une traîne misère et une négresse en caleçon. Toutes des putes que je te dis. J'encaisse. Lucia aussi. Le mépris se comprend dans toutes les langues. Elle murmure que c'est l'enfer ici, qu'elle n'oserait jamais parler comme ça, même à un haïtien. Tous ceux qui arpentent le couloir reçoivent également l'ordre de regagner leur chambre. « Allez, tous les nègres, là, oust! Vous nous dégoûtez de manger, et puis d'abord, faut qu'on vous compte. » Ils doivent se dire qu'ils perdraient leur latin s'il leur fallait nous écouter. Leur travail n'est pas de nous comprendre. Et dans ce huis clos étroit où nous sommes condamnés à coexister, cette distance qu'ils doivent garder n'a pas d'espace pour choisir entre le malaise et la haine. « Quand ont débouté vos ennuis ?» enchaîne la traductrice. « Par où commencent-ils les autres ? Qu'une simple question peut être déroutante. Si je m'en tiens aux derniers événements de mon histoire inventés, ils n'en saisiront pas la portée. Si en revanche je remonte loin en arrière, ils s'impatienteront encore. Je n'ai aucune idée du temps qu'ils vont me consacrer et je ne sais rien de toute façon. Dans ces conditions, qui peut aller à l'essentiel ? Je me lance dans le récit de mes 5 dernières années, celles que j'ai le plus soignées, où j'ai accumulé aussi le plus de licenciements et de tracas. Je débite des paragraphes entiers du livre que j'ai appris par cœur, celui de l'ouvrière. Crispé sur une feuille, le blond note scrupuleusement chacun des mots de la traduction. Les journées trop longues, la chaleur des hangars, la harne des contremaîtres, et laisse échapper de temps à autre une remarque acide. « Bon, admettons, ils font des petites journées dans ces zones, et alors ?» Ces conditions de travail ne suffisent pas à fonder ma demande d'asile. Je raconte l'incident de 1987, le tabassage de l'ouvrière enceinte, les manifestations indignées qui ont suivi dans la zone, les renvois et les arrestations qui n'ont pas tardé. Mon inconnue bute parfois sur surparler rapide de médicaments que je m'efforce de soigner. Elle me fait répéter. Son collègue me reproche d'être trop vague. Il lui faut la date, le nombre exact de licenciés d'interpellés, ainsi que leur proportion par rapport aux manifestants. Les témoignages que j'ai lus ou recueillis étaient plus personnels et leurs auteurs moins calculateurs. C'est une habitude de journaliste, d'enquêteur, d'appréhender la réalité et le temps à coups de griffe. Et puis, il y a eu tant de protestations, des grandes et des petites, comment tout comptabiliser ? J'improvise en avançant un nombre, important pour les licenciements, plus modéré pour les détentions, en espérant qu'il ne s'écarte pas trop de la vérité. « C'est bon, commente-t-il, cela représente un pourcentage correct d'arrestation. » Je persiste à m'en tenir à mon lent récit. « Sonia, ma fausse identité, Sonia a longtemps hésité avant de se syndiquer, craignant comme les autres d'y perdre son emploi, le temps ainsi de repérer ses contestataires condamnés à de brèves incursions clandestines dans les zones. L'interprète m'invite à accélérer, en méprenant à coups de « bon, et après ?» Et le blond laisse tomber de nouveaux commentaires qui me donnent à penser qu'il note beaucoup mais n'écoute pas toujours. C'est incroyable des conditions de travail pareilles. Mais que font les syndicats? Il n'y en a pas? Je les lasse, en somme, à leur compter des mésaventures générales et non personnelles. J'espère en arrivant à l'année 1990, celle des grandes grèves dominicaines, que je vais les intéresser, puisque je prétends que j'ai subi une détention de 15 jours en compagnie d'autres camarades. Mais ils m'assènent cette fois un « bon, et avant ?» Ensemble, ils passent en revue mes dires précédents, et soudain, ma traductrice soupire d'impatience. « Tu vois, elle reconnaît elle-même qu'elle n'avait rien subi de grave, tu sais, elle doit être à peine militante. » Demande-lui donc, en guise de conclusion, pourquoi ses copains du syndicat ne l'ont pas aidé à retrouver du travail. En France, ils se réservent les bons boulots, les camarades. Ils sont tous dans la fonction publique. Ici, ils se tiennent la main, là, et là-bas, non? Je ne saurais jamais ce qui les pousse ainsi à la caricature. Une frustration, peut-être, un manque de solidarité. En tout cas, ils me blessent. Si je n'avais pas été militante, ils ne m'auraient pas écoutée. J'en suis une, petite, et c'est en cette estime qu'il me tient. Il se rit de moi et de tous ceux qui ont fait Sonia, ceux qui veulent changer la vie et se résignent à changer de territoire. Je réplique, mais sans plus l'espoir de l'amadouer, que dans un pays qui compte 30% de sa population active au chômage, où l'administration licencie pour cause d'austérité, les amis ne sont pas d'un grand secours pour décrocher un emploi. Ma traductrice me congédie, presque dans la foulée, en me révélant enfin qui ils sont, au bout de 40 minutes d'entretien. Il est bien temps. Ils appartiennent au ministre des Affaires étrangères. Enfin, c'est pas très clair. Ils vont transmettre leur avis au ministère de l'Intérieur, qui prendra seul la décision de me laisser ou non entrer en France, afin que j'y dépose ma demande d'asile. Celle-ci, précise-t-elle, ne sera jugée sur le fond que plus tard. Je n'ai plus qu'à attendre. Je sors un peu chancelante. Mon affaire est perdue, je n'ai pas assez bien joué. Mon histoire est trop légère toutes ces vies que j'ai emmêlées. J'ai envie de pleurer. Je voudrais retrouver le jeune Tamoul qui était en larmes tout à l'heure, pour qu'il sache qu'il est tout de même possible de partager. Je pousse quelques portes, m'excuse auprès de leur locataire, finis par découvrir au 24 où je n'étais jamais entrée. Il sursaute, il pleure encore, parle à peine et en anglais. À petits pas, à coups de murmure, je tente de l'apprivoiser. Il se tient le bras, fait signe qu'il a mal sous son bandage. J'essaie d'examiner la plaie, mais sa grimace m'affole et je cours chercher Lucia, puisqu'elle a fait des études d'infirmière. Elle me suit étonnée de me voir égarée, mais comprend en un clin d'œil. Le pansement devrait être changé, mais le jeune homme refuse que l'on demande quoi que ce soit au policier. Les gestes doux de Lucia l'amènent à confier son nom, Indica, et sa vérité. C'est lui-même qui s'est mutilé. Il s'est fait 3 entailles. « Une pour mon père, dit-il, tué par une bombe. Une pour ma mère, morte dans l'incendie de notre maison. Une pour mon frère, devenu guerriero. » C'est la guerre chez lui, croit-il devoir expliquer, entre les Tamouls et les Cingalais, et lui n'a pas voulu y participer. Il saisit le bras de Lucia, me regarde dans les yeux, supplie qu'on l'aide à rester en France. Nous ne réussissons même pas à l'obliger à manger. Il s'est mis en grève de la faim, sans comprendre que dans cette zone, personne ne s'en soucierait. Et puis on nous embarque dans un foyer, dans Paris. Les jours qui suivent sont autant empoisonnés d'incertitudes qu'ils l'étaient à l'hôtel Arcade. Ma mine ne surprend personne. Mon voisin que je croise un matin dans les douches collectives de l'étage me salue, puis dans un anglais qui se vu rassurant ajoute « On est tous comme vous en arrivant, repliés sur soi, sur la défensive. Vous verrez, ça passe. » Il est éthiopien, il a séjourné 19 jours en zone et vit depuis 6 mois dans ce centre. Le temps du foyer est celui de la décantation, où chacun mesure son héritage et préfère en confier le poids à ceux qui ont le même passé. Il me faut plusieurs jours pour le comprendre. Une fois, j'aborde une tamoule, nous devisons un instant en anglais, je la convie à passer un moment dans ma chambre. Elle refuse. En face de ma chambre, loge des Cingalais. J'ai beau lui préciser que ceux-là m'ont, en se présentant, confié qu'ils étaient des opposants à leur propre gouvernement, rien n'y fait, bien sûr. Une autre fois, dans la salle de télévision, où chacun les sourcils froncés tente d'interpréter dans sa propre langue les nouvelles en français, je me retrouve le temps d'un reportage sur Sarajevo, aux côtés d'une Bosniaque et d'un Somali, qui lui traduit je ne sais quel idiome les propos du journaliste. Le hasard veut que j'aie sur moi ce que je crois être un signe d'espoir. la tribune violente, publiée dans un journal espagnol, d'un Serbe contre la politique serbe de purification ethnique. La réfugiée de Sarajevo me rend le journal immédiatement. Le nom de l'auteur a suffi à lui brûler les yeux, à teaser une douleur que le Somali se met à me traduire en anglais. Elle n'a pas besoin de journaux pour savoir qui sont les Serbes. Celui-là serait-il le prophète qu'elle refuserait de l'écouter ? La Bosniaque me tape l'épaule pour me signifier qu'elle ne m'en veut pas de mon geste idiot. Et mon voisin de chambre, l'Éthiopien, qui assiste lui aussi à la scène, hausse les épaules et s'en explique plus tard. C'est ça, les musulmans, ils sont intolérants. Et d'affirmer d'être bien placé pour le savoir, puisque l'Éthiopie catholique est cernée de pays où l'islam est dominant. Les lignes de front traversent elles aussi les frontières et échouent dans ce foyer où les fusils sont troqués contre des silences, des regards qui s'esquivent. Ce refuge contraint les ennemis à coexister et même à se confondre à l'heure des repas dans cette file d'attente grise et longue, tous dépossédés de tout au point de n'avoir plus que des couverts en main. Voilà, c'était quelques pages du dernier livre d'Anne Tristan, Clandestine, édité aux éditions Stock. Clandestine qui évoque le trajet qu'a effectué Anne Tristan elle-même en se faisant passer pour une jeune femme de Saint-Domingue, originaire d'un des villages les plus pauvres de cette île des Caraïbes et munie de cette identité. Elle s'aventure à débarquer à Roissy pour demander l'asile politique. Anne Tristan, Clandestine, aux éditions Stock.
Don't you know? when you're walking around the world, babe. You said you're trying to look for the end of the road. You might find out later that the road will end in Detroit. And the road will even end in Kathmandu. You could go all around the world trying to find something to do with your life, babe. When you only gotta do one thing well. You only gotta do one thing well to make it in this world, babe. You got a woman waiting for you, dear. All you ever gotta do is be a good man one time to one woman, and that'll be the end of the road, babe. I know you got more tears to shed, babe. So come on, come on, come on, come on. Come on!